À la présentation, Mireille Boukassa.
Merci d'écouter Radio Capi, la cité de Saké dans le Nord Kivu. Depuis hier, sous contrôle des éléments fidèles à Laurent Kunda, la MONU confirme les faits et les conséquences de cette situation se font déjà sentir. Par exemple, il y a pénurie des denrées alimentaires. Second tour des présidentielles, la Cour suprême de justice a décidé de rendre son verdict aujourd'hui. Une décision considérée comme une violation de la loi électorale par le collectif des avocats du MLC. Justice toujours, un policier condamné à mort pour avoir tué un chauffeur de taxi dans la nuit de samedi à dimanche à Matadi, l'inculpé à 5 jours pour interjeter appel. Mesdames, Messieurs, bonjour. La cité de Saké, arrachée des mains des FRDC depuis hier par les éléments fidèles au général déchu Laurent Kunda Batoare, le porte-parole de la MONUC l'a confirmé hier soir à Radio Capi. Kema Saiki signale aussi la présence des casques bleus de la MONUC à Saké. La MONUC se dit également prête à aider le gouvernement à régler ce conflit. Porte-parole de la MONUC, Kema Saiki est au micro de Stéphane Kendintita.
L'heure où je vous parle, la situation semble s'être quelque peu stabilisée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les éléments de la 11e brigade se sont retirés de Saké, que les forces de la MONU qui sont installées y sont présentes, et qu'apparemment à la périphérie de Saké et sur les hauteurs environnantes, les éléments de la 81e, 83e brigade se trouvent. Et je crois que ce qui se passe, c'est que le gouvernement de la RDC s'efforce de trouver une solution pacifique, politique, à ce conflit qui dure déjà depuis plusieurs mois. Et la MONUC n'épargnera aucun effort afin d'aider à une résolution pacifique de ce conflit. Pour ce qui est de Goma, la brigade de la MONUC du Nord Kivu a pris des dispositions afin d'assurer la sécurité des approches de Goma et de l'axe qui relie Goma à la ville de Saké.
Vous confirmez la présence des casques bleus à Saké aujourd'hui?
Oui, il y a environ près de 300 hommes des forces de la MONU qui sont à Saké, effectivement.
Signalons qu'une patrouille de casques bleus a essuyé des jets de pierre hier soir à Goma. C'est dans cette nouvelle livrée par l'AFP, des jeunes gens avaient érigé un barrage pour empêcher la MONUC de patrouiller. Ils l'accusaient d'appuyer les militaires dissidents fidèles à Laurent Kunda. Cet incident n'a pas fait de blessés. Les conséquences de cette situation commencent à se faire sentir. Déjà, les dépôts des produits vivriers sont presque vides à Goma. Il n'y a plus d'entrée des denrées alimentaires et ce, depuis l'augmentation des barrières sur la route Massissi-Goma en début de la semaine par des militaires de la 81e brigade non brassée et fidèle à Laurent Kunda. Ces derniers revendiquent la totalité de leur solde de 11 derniers mois détournés par leur chef, selon la 8e région militaire. Une situation qui s'empire avec le déclenchement des affrontements Saké depuis samedi dernier. L'association des dépositaires et vendeurs des vivres à Goma s'inquiète. Son président Amouli Justin est au micro de Bernardin Nyangui.
Ça fait une affaire d'une semaine. Il n'y a pas le camion qui part pour Massissi. La petite quantité vient de routine. Et cette quantité est insuffisante. Un problème que les autorités de la ville doivent prendre des précautions. Comment faire vivre la population de la ville? L'haricot coûtait 32$ à $35. Maintenant, ça revient à 45, 48.
Cette association recommande aux autorités provinciales d'empêcher pour le moment l'évacuation des denrées alimentaires vers l'extérieur de la province jusqu'à ce que la circulation sur l'axe Massissi-Goma soit bien rétablie. Lundi 27 novembre, c'est aujourd'hui même que la Cour suprême de justice a promis de rendre son verdict. Décision relative aux 8 requêtes du MLC pour l'annulation des résultats provisoires du second tour de la présidentielle. Cependant, le collectif des avocats du MLC et la Cour suprême de justice ne parlent pas le même langage. Les avocats du MLC, qui avaient boycotté la fin de l'audience de samedi dernier, pensent que la Cour suprême ne devrait pas rendre ce verdict aujourd'hui. Ce serait une violation de la loi électorale de la part de cette haute cour. C'est ce que maître Richard Bondo, membre du collectif des avocats du MLC, dit au téléphone de Guy Maté.
La cour est déjà en dépassement de délai et parce que l'article 74 lui donnait jusqu'à hier, samedi, un délai butoir au terme duquel elle devait rendre l'arrêt et que cette cour a failli au respect de cet article 74 de la loi électorale, le dépassement devient donc opposable non seulement à la cour, opposable à toutes les parties à ce procès. Nous, le collectif d'avocats conseil du MLC, nous sommes convaincus que demain, il n'y aurait pas de prononcé et l'audience pourra se poursuivre sans désemparer Et donc, nous nous serons demain au ministère des Affaires étrangères pour l'audience foraine qui devra continuer afin que nous puissions examiner les trois moyens, même parfaire les autres moyens sur lesquels l'instruction avait déjà eu lieu devant la Cour suprême de justice.
S'agissant justement du verdict de la Cour suprême de justice, le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies dans les Grands Lacs appelle les deux candidats en liste du second tour de la présidentielle à l'accepter. Ibrahim Fall, qui est arrivé à Kinshasa samedi dernier, l'a dit hier à Radio Kapi. C'était après son audience auprès du président Joseph Kabila. Ibrahim Fall, joint au téléphone par Stéphane Nkendintita.
J'espère vivement que les recours légaux qui ont été entamés se terminent dans les meilleurs délais et que toutes les parties concernées respectent scrupuleusement la décision souveraine de la Cour suprême de justice et que la RDC puisse enfin s'engager dans la phase post-transition, dans l'unité, dans la concorde, dans le respect de l'ordre et dans la volonté de sortir définitivement de la phase conflictuelle.
L'état d'avancement des préparatifs du deuxième sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs était également au menu de la rencontre entre Joseph Kabila et Ibrahim Fall. Cette conférence des chefs d'État de Grands Lacs se tiendra à Nairobi le 14 et 15 décembre 2006. Justice de nouveau à Matadi dans le Bas-Congo, un policier écope de la peine capitale pour avoir tué un chauffeur de taxi. Il devra aussi payer une somme de 250 000 dollars américains pour dédommager la famille de la victime et il est en plus radié de la police. Le tribunal militaire de Matadi accorde tout de même 5 jours à l'inculpé pour interjeter appel. Le corps sans vie du chauffeur a été retrouvé dans la nuit de samedi à dimanche au quartier Soyo. C'est un quartier d'une des communes de Matadi. Les jeunes de ce quartier en colère ont manifesté en empêchant ainsi toute circulation vers le marché sud de Matadi. Le rappel des faits avec Hirogé Niampala.
Le tribunal militaire de garnison de Matadi a initié une audience publique à l'inspectorat provincial du Bas-Congo. Devant la barre, le caporal Kalala Mubenga, accusé d'avoir abattu un chauffeur de taxi du nom de Christophe Kailou. L'acte a été commis dans la nuit de samedi à dimanche dans le quartier Soyo, dans la commune de Matadi. La police nationale congolaise, après des recherches, a mis la main sur le présumé meurtrier, toujours à Matadi. Signalons que dans la matinée, le jeune du quartier sud, lieu de résidence de la victime, avaient érigé des barricades pour manifester leur colère. La police les a dispersés et le calme est revenu. Depuis l'inspectorat provincial de la police du Bas-Congo à Matadi, Guy Roger Yampala, Radio Okapi.
Revenons à Kinshasa pour parler de ces deux éléments du JSSP qui se sont fait justice hier avant midi au rond-point Moulard dans la commune des Bandalungwa. Après un léger accident avec un taxi-bus, ces deux militaires embarquent dans le coffre de leur voiture blanche de marque Mitsubishi. Le chauffeur du taxi-bus et l'emmène à une destination inconnue. Information livrée par plusieurs témoins qui ont vécu le fait. Ces témoins racontent qu'auparavant, les mêmes éléments de JSSP ont fait tabasser et presque déshabiller une femme parmi la foule des mécontents présents à cet événement. Tabassage mené toujours, selon les témoins, par deux autres femmes qui accompagnaient ces deux éléments de la garde présidentielle de Joseph Kabila. Dans la partie nord de l'Équateur, des policiers de la ville de Gbadolité étaient en colère ce week-end. Ils réclament leur salaire du mois de novembre déjà payé à leurs collègues du nord Ubangi. Ils dénoncent également des retenues de 5 000 francs congolais programmées sur cette paye, des retenues qui se justifieraient selon eux par le transport de leurs tenues à partir de Mbandaka. Un des policiers est joint au téléphone par Paul-Richard Malingela.
La ville à Gbadolité, nous ne sommes pas encore payés. On nous propose de nous remettre 11 000 francs congolais. Nous le refusons. Où est la différence de 5 200? On veut nous retenir 3 000 francs pour payer aux veuves policières et 2 000 pour le transport de nos tenues qui arrivent par bateau. Nous refusons ce salaire. La tension monte déjà parmi nous et ça peut dégénérer ici à Gbadolité. En octobre dernier, nous avons également reçu un salaire incomplet, seulement 13 000 francs congolais.
Paul-Richard Malingela a également contacté à ce sujet le chef du département des ressources humaines de la police Équateur. Le lieutenant-colonel colonel Botouli dément ces allégations. Il reconnaît plutôt le retard de leur paye dû à une erreur d'expédition des fonds.
Il n'y a pas eu de retenue. Il y a eu plutôt le retard de paye que moi je peux expliquer. Bah, le fait est que Kinshasa avait envoyé l'enveloppe de paye de Guadolite dans les sous-unités différentes. Donc il est parti dans le district de la Choapa. Il est parti dans la ville de Zongo. Nous avons instruit le commandant du district d'extourner les montants correspondants pour totaliser alors l'enveloppe de paye de la ville de Guadolite. Mais quand tu as dit d'une retenue, il y a l'ordre de transport des tenues, tout ça, c'est formellement faux. Les tenues, nous les avons déjà acquises depuis le mois de mai, imaginez. Et puis, je vous ai dit que les tenues ont été expédiées par les avions de la Monique. Donc, les policiers ne peuvent jamais supporter les tenues. Cela n'existe pas.
Jusque ce dimanche, aucun policier de Guadolite n'est encore payé pour le mois de novembre. Le commandant de la ville dit attendre le complément de salaire de Zongo et de Boende avant de procéder à la paye. De la province de l'Équateur vers le Katanga, où la cité de Kalemi est plongée dans le noir depuis bientôt une semaine et demie, une équipe d'ingénieurs de la SNEL en provenance de Lubumbashi est arrivée hier à Kalemi pour tenter de dépanner le barrage de Bendera, barrage situé à 120 km au nord de cette cité. D'autre part, cette situation engendre des conséquences sur la population. Il y a pénurie d'eau potable et les autorités sanitaires déploient déjà des équipes à travers la ville pour mettre du chlore dans l'eau. L'une des conditions de reprise de travail à l'Office congolais de contrôle, direction générale de Kinshasa, est la libération de leur camarade Bibiane Tsukidi. Selon les délégués syndicaux de cet office, leur collègue avait été arrêté le 23 novembre dernier par la police dans les installations de l'OCC et elle a été conduite au cachot de l'IPEKIN alors qu'elle rendait compte des négociations collectives. Rappelons que cet arrêt momentané de travail est consécutif à deux arrêtés ministériels, l'un nommant un nouveau comité de gestion et l'autre suspendant deux anciens mandataires. Selubandi Teka, délégué syndical, au micro de Jeff Ngoy.
Le mercredi 23, le matin, le gouverneur nous avait donné les orientations à suivre quant aux revendications des droits sociaux. Il nous a dit ceci, vous avez le droit de revendiquer vos droits, mais à la seule condition que ces revendications s'efface dans l'enceinte de l'office. Je vous recommande, moi, gouverneur, de dire aux travailleurs de l'office congolais de contrôle de revendiquer leurs droits. Nous ne sommes pas contre, mais à condition que celle-ci se fasse dans l'enceinte. Et le mercredi, là, à 9h, Maman Tsukidi Bibiane faisait le compte-rendu de ce que le gouverneur nous a dit. Voilà que vers 9h, 9h30, il y a eu une équipe fumée, là, avec des policiers civils suffisamment armés, qui l'ont cueilli communément. Et pour le moment, des contacts pris, il s'avère que depuis ce jeudi-là, il se trouve incarcéré à l'IPEKIN, à l'inspection provisoire de Kinshasa, ancien circo. Les recommandations sont simples, monsieur le journaliste. Nous demandons qu'elle soit libérée, parce qu'elle ne faisait que son travail de délégué syndical. Avant que nous ne reprenions le travail, parce que jusqu'alors, nous ne sommes pas en grève, nous sommes en arrêt momentané de travail.
La libération de la syndicaliste Bibiane Tsukidi ne sera possible qu'après vérification de la véracité des faits retenus à sa charge. Propos du général Patrick Sabiti, inspecteur provincial de la police à Kinshasa. Il est au micro de Jeff Ngoy.
Je pense que depuis que j'ai pris le commandement de l'inspecteur provincial, on a toujours dépêché des policiers pour la protection et la garde du bâtiment de l'OCC. Et on demande des autorités de l'OCC. Donc si les autorités de l'OCC trouvent que la présence des policiers n'est plus nécessaire, nous allons retirer les policiers. L'OCC a une autorité, je crois l'OCC a un ADG qui parle, qui nous écrit au nom de l'OCC. Quant à nous, de la police, nous sommes là pour la protection des personnes et des biens, pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public.
Mais que dites-vous de la libération de Bibiane Tsukidi qui est à l'IPEKA?
Oui, si la dame a été arrêtée, c'est qu'il y a des faits qui ont été mis à sa charge. Après vérification, après enquête qui a été ouverte, si on trouve rien, on va le libérer. S'il y a effectivement des faits pour lesquels elle a été reprochée, bon, elle sera transférée à qui de droit.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.radiocapi.net.